Je voudrais ajouter au texte qui ont été lu, Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 19. Hébreux au chapitre 3, le verset 7 à 19. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme en temps d'exaspération, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères me mirent à l'épreuve, en cherchant mes sonnets, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours leur cœur s'égare, ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins, car j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais, que l'incrédulité détache du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure la proclamation d'aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Nous voici devenus en effet les compagnons du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position initiale. Alors qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération. Quels sont en effet ceux qui entendirent et qui provoquèrent l'exaspération? N'est-ce pas tous qui sortirent d'Égypte grâce à Moïse? Et contre qui s'est-il emporté pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui dira-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ces impossibles? Et nous constatons qu'ils ne purent pas entrer. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Le message de ce matin s'intitule « Quand notre foi rencontre des défis, quelle direction prendre ?»« Quand notre foi rencontre des défis, quelle direction prendre ?» Je vais introduire et puis je passerai à un seul point sur lequel je vais m'étendre pour vaincre, affronter les défis avec foi, avec courage, avec patience. Et puis je vais conclure. Bien-aimé, il n'est pas facile d'être croyant en RDC. Ce n'est pas non plus facile d'être croyant, même dans les pays limitrophes ou ailleurs. Parce que la vie au quotidien de toute personne croyante est un dur combat, on pourrait dire un dur exercice sur le parcours du combattant. Que l'on soit élève ou étudiant, que l'on travaille dans un secteur public ou privé, que l'on soit employé dans des ONG locales, internationales, dans les entreprises, que l'on exerce des petites ou des grandes affaires, que l'on soit homme ou femme, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, bien aimé, chaque jour de notre vie, nous sommes butés à des défis. C'est ça la réalité quotidienne. Les défis des dimanches ne seront pas comme ceux de lundi, de mardi et j'en passe. Nos vies sont donc régulièrement agitées par des situations qui tombent sur nous de façon imprévue. Et donc, servir le Seigneur de façon efficace, de façon conséquente, ne peut pas se faire dans l'agitation. Quelle que soit la raison que nous pouvons donner à l'agitation qui nous entoure ou qui agite nos cœurs, il n'est pas facile de servir le Seigneur dans une vie agitée. Il faut plutôt rechercher une expérience de vie paisible, de vie plus ou moins tranquille. Celle-là n'est possible que si on a trouvé son repos. En qui? En Dieu. Très régulièrement, vous le savez mieux que moi, nos vies sont agitées de différentes manières. Quand nous vivons dans un pays comme le nôtre où l'irresponsabilité des gouvernants est trop criante, nous sommes régulièrement soumis à des situations d'instabilité que nous aurions souhaité que ça prenne fin, mais ça continue à s'imposer. Nous sommes soumis à des chômages, les gens terminent les études, ils sont contents de terminer avec distinction et après ils se retrouvent au chômage. On pourrait dire qu'ils terminent la licence, mais ils commencent les graduats, les premiers graduats, dans le chômage. Ils risquent de faire encore 5 ans, alors qu'ils ont étudié pendant 5 ans. Ils ont étudié pendant 7 ans, et ils font encore peut-être même 7 ans. Les revenus sont très bas.
On parle des salaires, mais en fait, ce qu'on paye ne sont pas des salaires. Que ce soit ce que l'État paye, que ce soit ce que les privés payent, même ce que l'Église paye, ce ne sont pas des salaires en présence du mot. Alors, parce que le revenu est trop bas, les cœurs sont régulièrement agités. Il y a des soucis qui sont liés à la scolarisation des enfants. Bientôt l'école commence, demain, semble-t-il. Il y a des parents qui, jusque maintenant, continuent à se poser des questions. Je n'ai pas encore eu les fournitures scolaires. Il y a la survie de la famille. Il y a la nourriture et les vêtements qui posent problème parce que le revenu en soi est un problème. Peut-être que c'est une accumulation de dettes. Je le disais mercredi, on se retrouve dans une situation qu'on appelle un cycle infernal d'endettement. Ce n'est pas qu'on veut prendre des dettes, mais la vie vous expose à le faire. Un ami était venu me voir parce qu'il avait des dettes. Il disait en tout cas, lui, il faut savoir, là, tu as tout le monde qui a mangé. Non. Ce n'est pas à cause des dettes qu'on peut cesser de servir le Seigneur. Des loyers impayés. Des soins de santé difficiles à faire. Bref, il y a bien des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'attente prolongée des premiers enfants qui doivent être en famille. Des maladies chroniques. Des conflits et séparations dans la vie des couples. L'irresponsabilité du conjoint. Toutes ces choses-là nous plongent dans la confusion. Et se rabattent malheureusement sur notre foi. Comment vivre une vie épanouie? Comment peut-on faire face à des situations qui talonnent notre vie de chaque jour? C'est ça le deuxième point de notre prédication. Pour vaincre, il faut affronter les défis. Quelqu'un avait dit avec et sans péril, on triomphe sans gloire. Cet adage est valable pour la vie de foi. Lorsqu'il y a des défis, il ne faut pas se contenter de contourner les défis. Il faut plutôt les affronter. Nous venons de lire trois portions dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14 où nous rendons compte qu'il y a deux personnes, Josué et Caleb, qui sont ici un exemple type d'une foi qui affronte les défis. On pourrait considérer ces gens ici en face de cette multitude effrayée qui est tentée de retourner en Égypte et qui défie cette multitude. On peut considérer Caleb et Josué comme des fous de Dieu. Effectivement, croire, il faut être fou. Alléluia. Lorsque tout le monde ne croit pas et que toi tu continues à croire, on va dire que tu es comment? Tu es fou. Ils étaient des fous de Dieu qui, au nom de la foi, en la parole de Dieu, à la promesse et à la toute-puissance de Dieu, ont décidé de défier les 10 autres espions et toute la communauté d'Israël. Il n'y a que ces deux qui ont été en mesure de résister face à l'effroyable frayeur qui est en train de menacer toute la communauté, ils se tiennent encore debout à cause de la foi. Si on peut voir le pourcentage, on peut dire qu'il y avait 99,9999% qui étaient de l'autre côté. N'est-ce pas? Et il y a un 0,0001% qui a gardé la foi. Alors que les autres sont en train de décrier le pays comme un pays qui dévore ses habitants, où ils ont vu une population qu'ils ont appelée des hommes de grande taille et même des enfants d'Anak, alors que toute la population est en train de dire en tout cas que ces gens ici nous voient comme des sauterelles, et je crois que nous aussi, nous nous voyons comme des sauterelles. Voyez à quel niveau ils sont suffisamment entamés. Ils disent que les autres les voient comme des sauterelles, mais eux-mêmes disent, mais nous aussi, en tout cas, nous nous voyons comme des sauterelles. Nombre 13, verset 31 à 33. Alors que la majorité est tombée dans le désert, Josué et Caleb ont gardé la foi ferme. Avec l'Éternel, voici ce qu'ils disent. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. L'ombre de leur Dieu s'est éloignée d'eux alors que le Seigneur est avec nous. Ils sont convaincus que l'ombre protectrice s'est complètement éloignée d'eux. Mais eux, tout en étant 0,00001%, ils sont convaincus que Dieu est avec eux. Ce sont ces deux-là, dit la parole de Dieu, qui vont entrer dans la terre promise. Tous les autres, à partir de 20 ans, en montant, vont tous mourir dans les déserts. La confiance en Dieu paie toujours. Alléluia. La foi en Dieu bien-aimé paie toujours. Il est surprenant de constater que des gens qui disent qu'ils sont des croyants, quand ils rencontrent des défis, ils tentent de les contourner. Soit en cherchant à plaire aux hommes, un jeune affronté à un défi, appelé à poser un acte qui honorera le Seigneur, face à ce défi-là, il abandonne la foi pour plaire à son père ou pour plaire à sa mère. La foi nous invite de temps en temps à désobéir. Ouais. Il y a un ami qui disait à sa femme, « Nyo, à la mouki, à voix qui n'a imani, n'y a pas musulman, sinon tu n'as pas musulman. » Est-ce qu'il avait raison? Bijou, il avait raison? Il n'avait pas raison. La foi peut nous inviter de temps en temps à désobéir, à dire non, même quand la majorité a applaudi. Alors ce qui fait que les Congos souffrent, c'est parce qu'on dit que nous sommes 80% des chrétiens. Des chrétiens vraiment, des croyants vraiment. Un pays où il y a 80% des chrétiens ne serait pas comme les nôtres. Il n'y en a pas. Lorsqu'il y a un défi bien-aimé, il faut discerner la présence de Dieu. Comme a su bien le faire Josué, comme a su bien le faire Caleb. La question que je voudrais vous poser, combien y a-t-il aujourd'hui, ce matin, en ces lieux, parmi les jeunes qui sont devant moi, parmi les adultes qui sont devant moi, qui sont des hommes et des femmes de foi, et dont la foi se met en exercice face à des défis que vous êtes en train de rencontrer dans votre milieu professionnel ou même dans votre propre famille? Combien sont-ils des hommes de vision et de foi qui sont prêts à avancer au nom de la foi, qui sont prêts à continuer même quand ils ne savent pas où est-ce que Dieu est en train de les conduire? Combien y en a-t-il? Je voudrais vous dire que la foi ne peut pas être chargée comme on charge les unités dans les téléphones. Parce que vous chargez votre téléphone avec des unités de 10 dollars, vous pouvez avoir des unités de 1 mois. Vous le savez, on peut avoir des unités pendant 1 mois. Mais la foi, on ne peut pas la charger pendant 1 mois, dire bon, j'ai la foi suffisante pour le mois de septembre qui vient de commencer. La foi est valable pour chaque jour. Alléluia. Et cette foi valable pour chaque jour doit être nourrie de la parole de Dieu, nourrie des promesses de Dieu. Mais je me pose la question, les membres de Goma Ouest qui remplissent ce temple chaque dimanche, vous nourrissez votre foi où et quand? Les mardis, vous n'êtes pas là. Mais dimanche, vous êtes bien habillés, vous êtes en train d'andiner sur la route, nous allons écouter le Seigneur. On ne l'écoute pas seulement le dimanche. Les jeunes ont eu une activité ici qui nous a pris 1000 dollars. C'est mille de plus d'ailleurs. Ils étaient là 200 chaque jour. Aïe, combien? Alors, les jeunes. Ils étaient là 200 chaque jour. Mais vendredi, ils étaient 15. Comment on peut passer de 200 à 15? 3-4 jours seulement. Le mercredi, vous êtes où? Le jeudi, vous êtes où? Où est-ce que vous nourrissez votre foi? La foi, retenez cette phrase, ne peut pas être chargé comme des unités dans les téléphones pendant une semaine ou pendant un mois. Il faut la nourrir. L'histoire de Dieu qui nous rappelle le récit d'Esther où Mardoché aurait pu faire des compromissions, mais sa foi a été confrontée à un défi. Chaque fois que Haman passait, entrait à la porte, passait par la porte, ses collègues s'inclinaient pour l'adorer, n'est-ce pas? Il le faisait, il l'a pas fait. Il aurait pu perdre la raison de vivre de son peuple et de sa propre raison de vivre, mais voici ce qu'il a fait. Au nom de sa foi, alors qu'une compétition est organisée pour chercher qui sera la reine, il amène dans la compétition Esther, qui est une orpheline, qu'il a fait grandir et l'engage dans cette compétition-là. Il saisit l'opportunité pour l'amener elle aussi. Elle lui donne des conseils. Comment tu vas te comporter? Contre toute attente, Esther va devenir la reine. Mais comme si cela ne suffisait pas, quelques temps après, Haman influence le roi pour lui dire de pouvoir organiser un génocide contre les Juifs. Et Mardoché, de justesse, va réussir à éviter la catastrophe au peuple de Dieu, tout simplement parce qu'il a dit, il a persuadé Esther de s'engager dans un jeûne et prière. Et combien de jours? Et 3 jours. Le peuple a été sauvé. Alléluia. La fois passée, c'est un deuxième exemple que je prends. J'avais suivi une interview de l'entraîneur de la France, un certain Didier Deschamps. Vous savez que c'est la France qui a remporté la Coupe du Monde en juin passé, n'est-ce pas? Juin 2018. J'ai tort ou je n'ai pas tort? C'est vrai, non? Alors, on lui a posé la question. Quand quelqu'un remporte une coupe comme cela, on lui pose la question. Essaie de nous parler un peu de la manière dont tu es en train de vivre cet événement. Avant de commencer à parler de la victoire, il a parlé des défaites. Il a dit qu'en 2014, la France avait été éliminée à la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Il a ajouté qu'en 2016, contre le Portugal, dans une Coupe d'Europe, la France avait été éliminée. Mais il a ajouté une phrase importante, il a dit ceci. Lorsqu'il y a défaite, on a tendance à remettre en cause ce qui est arrivé. Il a dit, il faut savoir pourquoi l'échec est arrivé. Il faut savoir s'adapter à l'échec. Il a ajouté, les défaites sont parfois plus utiles dans notre vie que les victoires. Parce que les victoires nous rendent fous. Mais les défaites, nous pouvons en tirer profit si nous savons nous adapter et réguler notre position et savoir comment nous allons nous comporter. Ça, c'est un païen qui parle. Oui, c'est un païen qui parle. Et je récupère ce qu'il vient de dire en disant, il n'y a pas de vie de foi sans moment d'échec. Il n'y en a pas. Alors, si cet entraîneur a réussi à devenir le plus grand entraîneur, parce qu'il a quand même remporté la Coupe du Monde, tout simplement parce qu'il n'a pas renoncé à ses convictions de foi, il est indispensable que nous comprenions, en tant que croyants, que lorsque les circonstances changent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous devons mettre en valeur nos convictions de foi. Lorsque Dieu nous place dans des conditions de changer certaines choses pour nous rapprocher davantage de lui, il faut le faire. Il faut saisir l'opportunité. Lorsque Dieu nous invite à nous rapprocher davantage de lui, dans l'écoute de sa parole et dans la prière, il faut le faire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la foi, j'ai dit la première chose, que la foi ne peut pas être chargée comme les unités dans le téléphone. La deuxième chose, je veux dire que la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Je l'ai dit mercredi passé, la foi n'est pas une petite vie tranquille où l'arrêt total des hostilités est proclamé, où les échecs, où l'absence de la guerre est affirmée. Dieu ne nous a jamais appelés à traverser sans incident les parcours sur lesquels nous entraîne, mais il a plutôt permis, il a promis plutôt une arrivée certaine. C'est-à-dire que nous n'allons pas évoluer tranquillement, sans heurts, sans épreuves, sans combat. Mais si nous tenons fermement dans notre foi, nous allons arriver certainement par le Seigneur qui nous fait grâce. La plus grande bénédiction réservée aux croyants, c'est que Dieu offre sa présence. Il offre aussi sa paix pendant les moments d'épreuve. Il n'y a que ceux qui se soumettent à Dieu, qui voient Dieu là où il ne peut plus être vu, parce qu'il garde la foi, qui expérimente cette paix-là que Dieu promet. Ésaïe chapitre 23, verset 6 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Il n'y a que celui qui est ferme dans sa foi, à qui le Seigneur affirme, promet sa paix. Notre vie de foi est soumise à des vagues, des rapides, des remous, des situations qui nous déconcertent. Nous nous sentons malmenés de part et d'autre. Cependant, nous devons savoir que Dieu n'est pas absent dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de nos défaites? Il faut jamais, la première chose, il faut jamais passer par-dessus nos défaites. Il faut plutôt reconnaître que ces défaites qui sont arrivées, nous devons en tirer profit. Une tempête qu'on a traversée est un moment béni où le Seigneur laisse ses empreintes et sa présence dans notre histoire avec lui. J'étais à l'hôpital vendredi pour voir la femme de notre frère ancien Jonathan, qui a fait 4 heures dans la salle d'opération, de 1h du matin vers 5h du matin. Elle était entre la vie et la mort. Elle m'a dit, pasteur, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que Dieu m'a sauvé de la mort. C'est face à des défis qu'on constate que le Seigneur a laissé ses empreintes. Personnellement, quand je réfléchis au coup dur que j'ai connu dans ma vie, il m'arrive de me dire, c'est incroyable de constater que le Seigneur a toujours été là. Il ne m'a jamais abandonné. Deuxième chose, il faut savoir évaluer nos défaites. Nous devons nous poser des questions. À quel niveau je suis responsable? Et assumer cette responsabilité. Quelle leçon dois-je tirer de tout ceci? Si ça se reproduisait encore, comment pourrais-je agir de façon autre que je n'ai agi par le passé? Dans certains cas, nous sommes parfois responsables de nos malheurs. Parce que s'il arrive que tu es défié et que tu perds la foi et qu'il y ait des choses qui arrivent après, qui est responsable? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que si tu tenais dans la foi, peut-être que Dieu aurait pu t'épargner ce qui est arrivé après. Bien-aimés, le secret dans les situations de détresse par lesquelles nous passons, il faut la patience. Il faut aussi la prière. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 12 dit, heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de gloire. Il n'y a que ceux qui auront résisté qui vont recevoir la couronne de gloire. Caleb et Josué l'ont-ils reçu? Ils l'ont reçu parce qu'ils ont résisté. 1 Pierre chapitre 5 verset 17 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous devons apprendre à décharger nos soucis sur le Seigneur. Il ne faut pas les porter. Il ne faut pas porter nos tensions. Il ne faut pas que nous portions nos luttes. Nous devons nous montrer assez croyants, capables de nous décharger sur celui qui peut nous prendre en charge et s'occuper de ces choses. Les petites victoires, il y a une phrase que j'avais dite aux jeunes qui l'ont bien gardée. Les petites victoires nous préparent au grand combat. Pour conclure, bien-aimés, Nombres chapitre 13 à 14 nous montre qu'il y a deux attitudes radicalement opposées. Mais ces attitudes ont aussi des conséquences opposées. À un moment critique d'Israël, ils doivent traverser la mer, ils doivent arriver en terre promise. Il y a 10 espions qui sont suivis par la majorité du peuple. Mais de l'autre côté, il y a un petit groupe constitué de deux personnes, de Caleb et Josué. Le premier groupe est focalisé sur ces obstacles auxquels ils sont affrontés. Auxquels ils sont confrontés, leurs regards sont surtout focalisés sur les obstacles. Et très souvent, il nous arrive d'avoir nos regards focalisés sur nos problèmes. Aucune attention, aucun regard vers l'Éternel sur ce qu'il peut faire. Mais plus nous nous concentrons sur nos problèmes, nous sommes noyés, nous tombons dans la panique et nous commettons des erreurs. Deuxième groupe, Marie du Flitté est convaincue que le pays a été promis par Dieu. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Il est encore possible que Dieu intervienne, quoi qu'il en soit. Au milieu des dangers que nous courons, je vous exhorte, l'opposition à laquelle nous sommes en train de faire face, les tentations et les difficultés de tout genre auxquelles nos cœurs sont affrontés, notre esprit peut encore trouver du repos dans la forteresse de l'amour de Dieu. Alléluia. Dans la forteresse de la puissance de Dieu qui met en œuvre, qui peut déployer, nous pouvons nous reposer en lui. Si nous prenons le risque de quitter ce lieu de repos, de quitter cette intimité avec le Seigneur, cette conscience comme une foi enfantine que nous plaçons vis-à-vis, nous plaçons dans le Seigneur, dans sa parole et ses promesses, si nous prenons le risque de ne pas rechercher ce repos-là, nous allons nous exposer. Et bien des choses vont arriver, nous allons les regretter. Que le Seigneur nous aide à être des fous de Dieu, des hommes et des femmes de foi, capables de nous tenir, même quand la majorité s'est accordée sur une chose qui, à tes yeux, est mal, tu dis non, tu t'élèves. Que le Seigneur bénisse.